Merci donc pour ce tour d'horizon sur, à différentes échelles et différents niveaux. Et donc la question qu'on se pose toutes et tous, c'est qu'est-ce qu'on fait du coup ? Quels sont les moyens de la résistance ? Et je passe le micro pour un dernier tour de parole en demandant aux intervenantes d'essayer de faire ça en 5 minutes pour qu'on puisse effectivement avoir un moment d'échange avec les autres personnes dans la salle.
Oui, je vais faire extrêmement court parce que déjà là, la première partie... peu plombant, quoi. Hein, on a envie de rester sous sa couette. Justement, l'idée, c'est pas forcément de rester sous sa couette quand on a des convictions qui vont à l'encontre de celles de nos chers gouvernements. Déjà, un des premiers points, mais Laure pourrait y revenir après, c'est effectivement, elle a un peu énoncé, c'est déjà avoir connaissance de ses droits. Parce que justement, comme on est quand même face à une grosse machine qui veut nous écraser, l'idée c'est déjà connaître un petit peu ses droits, que ce soit en garde à vue, sur le droit de manifester, etc. Donc ça c'est le premier point. Quand on est une organisation qui, par exemple, comme l'ANAFE, a 3 de ses militants qui sont poursuivis pour délit de solidarité, ça pose aussi des questions en interne en termes de... d'action, d'activité. Et du coup, nous, on a pris le parti de ne pas réduire nos activités et de ne pas se limiter, mais du coup, de les repenser autrement en prenant en compte, en fait, tous ces risques-là. Donc, je crois qu'une des premières résistances, c'est déjà d'avoir connaissance, en fait, de tout ça pour pouvoir agir peut-être dans un cadre un peu différent pour plus se protéger. Protéger aussi les personnes que l'on veut soutenir, donc les personnes exilées. Donc ça, c'est un premier point. Après, il y a des choses un peu concrètes hein, qui peuvent être mises en place. Il y a déjà le contentieux. Donc nous, à l'ANAFE, on est une asso avec une expérience juridique assez importante. Et donc, par exemple, sur le fichage, que ce soit les militants européens qui ont été bloqués aux frontières françaises ou nos militants qui ont eu des refus de telle ou telle accréditation, on est allé au contentieux. Alors, c'est des contentieux qui sont un peu compliqués parce qu'on n'accède pas à son fichier comme ça, on n'accède pas à la CNIL comme ça, c'est un peu... on découvre aussi hein, de nouveaux champs d'action. Mais le contentieux sur les questions de fichage, hein, c'est quelque chose qui quand même fonctionne relativement bien quand on est un peu armé et qu'on a le temps, parce que les juridictions françaises, c'est pas les plus rapides. Le contentieux, c'est quand même quelque chose, c'est un outil, alors qui fonctionne pas toujours. Hein. Des fois, on continue juste pour se dire, pour principe, on continue. Là, l'ANAFE et le Gisti, on a déposé un énième recours contre le 12e renouvellement des contrôles aux frontières internes. Voilà, on s'est fait balader X fois par le Conseil d'État. On y retourne, on cherche de nouveaux arguments. Pour l'ANAFE, on est un peu sur ce créneau-là, le contentieux. Mais aussi, pas forcément parce qu'on se dit que ça va marcher, mais aussi politiquement, parce que du coup, derrière, on va faire de la com. Un des points importants, c'est ça, c'est communiquer sur ce qui se passe. Récolter de l'info, retranscrire cette info, divers supports, hein, ça peut être... lors de réunions comme ce soir, lors de rapports, lors de communiqués de presse, etc. Mais je pense que cette communication, c'est aussi une forme de résistance, ne pas se taire et ne pas rester bâillonné face à tout ce qui se passe. Et après, il y a d'autres choses, hein, comme porter plainte pour les violences policières, sachant qu'on a quand même un risque que ça se retourne contre nous pour outrage. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Organiser des mobilisations, des manifestations, des campagnes publiques sur telle ou telle thématique. Juste du coup, ce qui change un peu aujourd'hui, c'est la réflexion sur comment on organise tout ça et comment on le pense en fait en amont. C'est-à-dire que c'est plus compliqué d'improviser, de se dire « bon allez, demain on se retrouve à tel endroit ». Là, ça se réfléchit un petit peu différemment. Quoi. Voilà.
La parole à Loane, du coup.
Du coup, comment on peut résister aux abus et à l'oppression dans le contexte des frontières ? Alors, je pense qu'on va tous le répéter ici, mais forcément, la formation, l'entraînement, connaître ses droits, c'est hyper important. Moi, j'ai mis du temps à le connaître ça et je l'ai regretté. Mais oui, vraiment, voilà, connaître ses droits sur lors des contrôles d'identité, lors des gardes à vue, organiser des formations, des documents courts, traduits, nous par exemple pour nos bénévoles français et anglais, ça aide. Solène pourrait parler par exemple d'une très bonne habitude, c'est les testaments de garde à vue, qui sont très très pratiques. Et nous, peu avant que je parte de Calais, on avait commencé à le mettre en place, et ça a très bien marché pour un bénévole qui a été mis en garde à vue. Mais il y a aussi du coup tout ce qui est documenter les abus. Donc ça aussi, ça paraît simple dit comme ça, mais c'est très dur à mettre en place. C'est pousser ses équipes, pousser ses collègues, ses bénévoles à faire des témoignages, apprendre à filmer, prendre des photos. Parce que, et ensuite, voilà, mais pas seulement après, une fois qu'ils sont documentés, que vous avez collecté ces données, il faut les analyser, faire des rapports, et donc du coup, après commencer à faire du plaidoyer, dénoncer ces abus, amener des élus à travailler sur ces questions-là, le montrer au public, montrer voilà que oui, sur telle période, on a eu plus de 170 contrôles d'identité, montrer que c'est massif, mais voilà, il faut que ce soit très sérieux, il faut que ce soit basé sur des rapports très solides, si on veut vraiment être crédible derrière. Il y a donc après, oui, il y a tout ce qui est les réponses en termes juridiques, le porter plainte, les signalements de l'IGPN, les saisines du défenseur des droits, ça aide, ça apporte beaucoup de soutien, vraiment. Si c'est bien fait, ça peut avoir des résultats, en plus. Donc, vraiment, je le recommanderais toujours. Après, si on passe plus sur le côté poursuite judiciaire, les procès, etc., là, donc, je veux dire, c'est vraiment de mon point de vue personnel. Donc, je vous ai dit, comme tout à l'heure, il y a vraiment une vraie fatigue, une vraie pression psychologique. Et ça, si on veut résister à ça, en fait, ce qui est vraiment important, c'est tout con, mais c'est vraiment les messages de soutien. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Moi, après, lorsque j'ai été condamné, j'ai eu de la chance, c'est qu'il y a eu plein de collègues qui ont envoyé des messages. Parce que j'ai eu beaucoup de chance aussi parce que Amnesty m'a soutenu. Et du coup, il y a eu plein d'inconnus qui m'ont juste dit, juste accroche-toi. Et vraiment, c'est important parce que c'est vraiment dur de sortir du tribunal, de savoir que tu es condamné et que tu vas repartir pour des mois d'appel, etc. Donc, c'est vraiment important. C'est pas anodin, mais voilà, juste un petit mail, si vous connaissez quelqu'un qui est poursuivi, ça peut l'aider. On parlait de, forcément, c'est basique, mais c'est quand même important, les risques juridiques, donc être défendu. Donc voilà, si vous avez un doute, si vous êtes convoqué au commissariat ou que vous allez faire une action, vous avez un doute, demandez conseil à des juristes, à des avocats, c'est vraiment hyper important. J'ai eu beaucoup de chance aussi, c'est que lors de mon procès, lorsque j'étais convoqué au commissariat et que j'avais pas d'avocat à cause de la grève des barreaux, j'ai envoyé un mail à Human Rights Watch en leur disant vous avez suivi ce qui se passe à Calais, là je suis dans la mouise, j'ai pas d'avocat, je sais pas pourquoi je suis convoqué, et en quelques heures ils m'ont trouvé un avocat génial, et voilà, et ça c'est important parce que quand bien même on sait que c'est de la criminalisation de la solidarité, qu'il n'y a pas forcément de fondement juridique, on peut risquer très cher. Les parquets, les parties civiles, la police, ils peuvent monter des dossiers extrêmement compliqués, ils peuvent aller très loin, il y a des pièces qui veulent constituer, des pièces qui disparaissent, des témoins qui peuvent être là, puis pas là. Enfin, ça peut être, donc on peut risquer très gros. Et donc être bien défendu, c'est vraiment important. Et le dernier point, je dirais, c'est pour répondre en fait au côté très contre-feu des procès, le fait que votre voix est décrédibilisée. Justement, si un militant est poursuivi pour ses actions, ce qui va l'aider, c'est justement se renseigner pourquoi il est poursuivi. S'il est poursuivi, c'est qu'il dérange. Qu'est-ce qui fait qu'il dérange autant? Et donc, regarder, par exemple, chercher ses publications, voir quels faits il dénonce, et donc du coup les relayer pour remettre en fait au premier plan les abus sur les exilés. Parce que ça, du coup, il y a vraiment un fort risque que ça passe de côté et que, du coup, tout le travail du militant se soit balayé. Donc, vraiment, le chercher, voilà, par exemple, nous, c'est très sur l'expulsion. Il y a vraiment, derrière mon procès, il y a vraiment le risque, en fait, qu'on arrive à faire croire à l'opinion comme quoi la police ne ramasse pas de couverture. Et qu'en fait, les bénévoles, les militants qui en parlent, ce sont juste des menteurs. Et donc, voilà, pareil. Relayer les rapports, montrer les photos, les vidéos, il y en a, et les relayer derrière pendant les procès, ça montre que il a raison, il dénonce des abus, il doit être défendu pour ça.
Alors oui, sur les résistances, sur le point formation, tu disais former, enfin pour le coup la cabane juridique fait et propose des formations depuis maintenant plusieurs années, enfin en fait deux ans et demi, sur la question justement de droits des militants. Et en fait ce qu'on constate, c'est que c'est pas si répandu. En fait, nous, quand on a proposé, on a fait en co-animation avec la plateforme Service Migrants dans le Nord-Pas-de-Calais. Et en fait, on a vu arriver à la formation des personnes qui venaient de Arras, de Liévin, de Lille. Enfin, on était à Calais, c'est-à-dire qu'on s'était attendu à quelques personnes localement, peut-être à la limite... des gens dans le coin, quoi. Enfin, on s'attendait pas, et là on a vu débarquer 50 personnes qui venaient d'autres endroits, et on a vite compris que il y avait en effet des personnes qui connaissaient et qui avaient de l'information, et ça existe dans toute la France, ils sont toujours existants, mais que c'était souvent de l'auto-formation ou de la formation avec des petits groupes restreints, ou alors vraiment un accès limité. Et par contre, la formation, on va dire, plus large, qui s'adresserait à tous et à tout le monde, avec cette logique de « en fait, vous êtes tous concernés », et que ce n'est pas juste la personne qui va aller ouvrir un lieu qui est concernée, mais c'est aussi juste la personne qui va décider à un moment que elle a envie d'être un peu au soutien de telle ou telle cause qui va être concernée. Parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, on parle des exilés, mais il y a énormément de militants en France aujourd'hui qui sont poursuivis pour d'autres combats. Et que, en fait, plus largement, connaître ses droits, c'est pas juste connaître ses droits dans le cadre de la lutte pour le droit des personnes exilées. C'est aussi déjà connaître ses droits, nous, en tant que... C'est quoi nos droits, en fait ? C'est qu'est-ce qu'on peut revendiquer ? Quels droits on peut... juste pour lesquels il faut qu'on se batte ? Donc, on parlait de droit du manifester qui touche plein de thématiques. Hein. Donc, voilà. Donc, déjà, ces formations, mais aussi des formations larges. On a vu que les formations, ça rassure. Il y a eu une journée, il n'y a pas longtemps, à Calais, sur l'hébergement et sur l'hospitalité, qui était organisée par le Secours 4. Et en fait, pouvoir faire un temps de formation sur le droit d'héberger, c'est quoi, en fait ? C'est quoi les... Enfin, qu'est-ce qui m'encadre ? Qu'est-ce qui me protège ? En fait, ça permet de rassurer les personnes qui viennent, qui ne savent pas trop. Et là, soudain, ils se disent, je peux le faire. Et en plus, je sais que si je le fais, je peux un peu me défendre, quoi. Demain, si la police commence à me dire, mais vous savez... Article 622, attention, faites attention. En fait, j'ai l'outillage, je dispose déjà de l'information et, à ce sujet, et je peux répondre. Et c'est fondamental. Et après, il y a cette question de la formation de nos équipes, en fait. Pour toutes les assos, et nous, c'est vraiment, nous, on s'arrache les cheveux à la cabane juridique depuis 2 ans. C'est un de nos combats. C'est que les assos qui interviennent et qui mettent en danger, pour moi, c'est ça, des personnes, quand elles ne sont pas formées sur le terrain, doivent former leurs bénévoles. En fait, c'est pas possible. Sur des terrains qui sont complexes, qui sont avec des risques juridiques accrus, il y a une responsabilité aussi des orgas qui interviennent, en fait, de former leurs bénévoles, tout simplement. Et donc ça veut dire quoi, former ? On parlait du testament garde à vue, oui. Alors ça veut dire quoi ? C'est que je considère que mes chances d'être placée en garde à vue quand je suis sur ce territoire à faire ça sont très élevées. Donc en fait, je vais en amont préparer, anticiper, je vais former et je vais prévoir la possibilité d'être placée en garde à vue et dans ce cas, donner mes contacts, donner en fait mes volontés, c'est-à-dire est-ce que je souhaite que ma situation soit médiatisée, ce genre de choses. Et le faire, en fait, c'est l'anticipation qui est vraiment très importante dans ce genre de situation. Après, il y a la question de la défense. Faut savoir que, par exemple, les assos peuvent aussi être attaqués. Nous, alors, jusqu'à présent, c'est pas encore allé jusqu'à une attaque franche et claire, mais on a eu à un moment la question des incitations aux appels malveillants. Vous savez, c'est quand sur Facebook, on relaie un message qui dit, voilà, un ami, un militant, quelqu'un a été placé en garde à vue, ou alors, et appeler le commissariat, demander des nouvelles, ce genre de choses. Nous, on a toujours pensé que c'était plutôt chouette en termes de mobilisation citoyenne, en termes de, voilà, des personnes derrière montraient qu'on était plusieurs. Et nous, on a eu une petite des bénévoles ou des personnes au soutien qui ont été convoquées pour appel malveillant suite à un appel au commissariat en disant « Bonjour, j'aimerais des nouvelles de cette personne ». Et l'asso, il se trouve que c'était à Cabane, mais ça aurait pu être une autre asso, qui avait invité à le faire pour cette fameuse incitation à appel malveillant. Donc voilà, donc ça interroge. Pourquoi ? Parce que c'est un outil de résistance, c'est un outil de visibilisation. Et donc, si on commence à nous attaquer nos outils, ça ne va pas du tout. Il y a un moment, faut vraiment être en capacité d'en avoir conscience et de réagir. Et j'aurais adoré que dans ce cadre-là, plus de 500 000 personnes appellent, parce que ça aurait été vraiment génial en termes de réaction. Donc voilà. Et le contentieux, bien sûr, la cabane, on essaye. On a décidé de se faire beaucoup plus souvent d'être intervenant volontaire. Pourquoi ? parce qu'être intervenant volontaire, c'est pouvoir parler aux juridictions, au niveau du Conseil d'État, pouvoir ramener la réalité comme ça dans les dents du Conseil d'État et ne pas arrêter de le faire. Et c'est hyper important, je pense, en termes de, notamment d'entrave à tout ce qui est droit au niveau des préfectures, mais aussi à la frontière. Voilà. Et je finirai sur la communication et les réseaux. Mais ça, je vais te laisser en parler puisque tu es quand même porte-parole pour délinquants. Mais voilà, communiquer, réussir à sortir de l'information. Et nous, on est très mauvais à la cabane sur ça, faut reconnaître. Donc, on a encore de la marge de progression. Mais pouvoir communiquer sur ce qui se passe, que ce soit des rapports, des petites communications, sensibiliser, intervenir aussi lors d'événements, c'est très important. Voilà.
Bon, bah, du coup, je vais enchaîner directement sur ça. Oui, c'est extrêmement important, en fait, la sensibilisation et aussi la déconstruction de tout ce qui a été dit à la fois il est poursuivi pénalement, alors du coup, c'est qu'il a fait quelque chose de mal, ou plus largement sur qu'est-ce que le délit de solidarité, hein, parce qu'on nous a tous fait croire en juillet qu'il n'existait plus. On nous l'avait déjà dit en 2012, hein, mais on nous l'a redit en juillet. Bah, c'est aussi notre travail à la fois des militants, des associations et plus largement des collectifs de travailler pour que d'informer la société civile pour qu'ils aient bien conscience qu'en fait, c'est pas du tout le cas, que les militants ils continuent d'être inquiétés d'une manière ou d'une autre. L'autre élément sur la médiatisation, c'est aussi l'organisation des soutiens. Tu en parlais tout à l'heure, Loane, sur les messages de soutien individuels, mais aussi l'organisation dans le cadre des défenses qui peuvent être mises en œuvre pour certains, dans le cadre de certains procès, quand les personnes le souhaitent, bien évidemment, de médiatiser la situation, que ce soit au niveau national ou international, comme ça a été le cas, par exemple, pour Martine Landry, militante d'Amnesty, qui, du coup, sa situation, elle a été relayée à un niveau international, ou les 7 de Briançon, le comité de soutien a organisé le jour du procès et la veille, un concert, et le jour même un rassemblement où il y a eu à peu près 2500 personnes qui sont passées dans la journée, où il y avait une présence policière assez incroyable depuis la veille, qui faisait des contrôles à tire-larigot, mais aussi la pression policière était vraiment juste à côté des stands des manifestants, mais ce qui n'a pas empêché que les gens se mobilisent et apportent leur soutien. Et c'est vrai que la force du collectif, alors je ne parle pas que du collectif délinquants solidaires, je parle de tous les collectifs, de toutes les assos qui se rassemblent pour lutter contre ça, c'est vraiment extrêmement important. Il ne faut pas non plus négliger que la médiatisation, en fait, les journalistes sur ce point-là, ils peuvent être aussi un élément extrêmement intéressant parce que du coup, ils vont relayer les situations et faire connaître un petit peu plus les situations. Peut-être pour parler un petit peu plus du collectif délinquants solidaires, en fait, il a été créé, il s'est constitué à la fin de l'année 2017 dans le cadre de la publication d'un manifeste où plus d'une centaine d'associations et de syndicats et d'organisations ont porté une voix commune pour dire que qu'il fallait que les pressions et les poursuites contre les militants qui viennent en aide aux personnes exilées, que tout ça cesse. Depuis ce manifeste, le collectif a œuvré à plusieurs niveaux. Donc, pour faire du soutien direct dans le cadre de procès, mais également dans le cadre de plaidoyer. Il y a eu un énorme travail de plaidoyer qui a été fait dans le cadre de la loi asile et immigration, notamment à l'égard des parlementaires, ce qui n'a pour l'instant pas eu beaucoup d'effet. Mais c'est un travail que l'on poursuit. Et l'autre élément, et qui fait écho à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est l'outillage des militants. Et donc là, le collectif délinquants solidaires, alors c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de travaux qui sont faits, mais le collectif délinquants solidaires travaille à l'heure actuelle sur un guide qui sera disponible prochainement, à l'usage des militants et qui rassemble en fait différentes thématiques et différentes questions. Savoir que faire en fait globalement, quelle est la loi applicable et les conseils que l'on peut donner aux militants pour savoir comment agir, que ce soit dans le cadre d'actions humanitaires, mais également aussi pour les travailleurs sociaux. Lorsqu'on veut héberger des personnes ou si l'on fait simplement des observations des forces de l'ordre, que ce soit aux frontières ou même après à Paris ou autre, mais également des questions sur la question du transport en fait des personnes dans le cadre de passage de frontières. L'information aussi des personnes, parce que c'est quand même quelque chose qui est primordial en fait, savoir que, enfin, donner les informations sur leurs droits aux personnes que l'on rencontre, c'est extrêmement important. L'autre thème qui sera abordé, c'est l'opposition aux expulsions. Donc du coup, le guide qui sera assez important va permettre en fait d'avoir tous ces éléments clés, à la fois en termes de législation applicable et des outils. Notamment par exemple, tu parlais tout à l'heure de la garde à vue, tout ça, ce sera également abordé. Plus large peut-être que l'aspect national, ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que le soutien et les résistances, elles se font pas qu'au niveau national, elles se multiplient en fait au niveau européen, avec des soutiens à la fois dans le cadre de procès. Par exemple, trois jours avant le procès des 7 de Briançon, il y avait un procès en Belgique sur des thématiques identiques. Et en fait, c'est assez intéressant de voir que, en fait, au niveau européen, les militants et les associations belges ou d'autres pays ont apporté leur soutien au 7 de Briançon, et que de la même manière, des associations et des militants français et d'autres pays ont apporté leur soutien aux militants belges poursuivis. Pareil pour le maire de Riatch, où il y a une pétition qui circule qu'il puisse rentrer chez lui. Et le dernier élément dont je voulais parler en quelques minutes, qui est une initiative européenne, c'est ce qu'on appelle une initiative citoyenne européenne. Merci. C'est en fait plusieurs associations, plus d'une centaine d'associations qui sont regroupées au niveau européen pour porter des revendications auprès de la Commission européenne et du Parlement européen. Alors une ICE, donc c'est quoi ? C'est en fait un instrument de démocratie participative à l'échelle européenne. Comment ça fonctionne ? Il faut obtenir 1 million de signatures en un an dans au moins 7 États membres de l'Union européenne. Si on obtient ce million de signatures, on peut présenter des initiatives lors d'une audition publique organisée au Parlement européen, ce qui oblige la Commission à répondre aux propositions de l'ICE. Là, du coup, il y a une initiative qui a été lancée du coup, un appel à signature d'ici février 2019, qui reprend en fait trois thématiques. Je vais juste parler de deux parce que c'est ce qui nous intéresse principalement ce soir. C'est la première, c'est en fait un accès aux droits pour les personnes. Que l'accès aux droits soit garanti, notamment pour les personnes qui seraient victimes de pressions ou de violences policières. Et le deuxième, c'est pour qu'il soit mis fin au délit de solidarité dans son sens large. Voilà.
Juste le nom, ça s'appelle « Pour une Europe accueillante ».
Merci à toutes les intervenantes et intervenants. Juste avant d'ouvrir la discussion,